On va continuer dans notre étude du premier des petits prophètes, du premier dans l'ordre biblique, le prophète Osée. Je vous invite à vous tourner à Osée 8. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, c'est toujours un défi ou en même temps une joie que d'étudier, de lire attentivement les passages les moins connus de ta parole, Seigneur. Et oui, je veux te bénir pour ces prophètes, ces petits prophètes, souvent mal connus, Seigneur, et pourtant leur message est tellement d'actualité, Seigneur. Tu veux parler à ton peuple, tu as parlé à ton peuple par ces petits prophètes. Et Seigneur, tu veux parler à ton église aujourd'hui, tu veux parler à ton peuple, toujours par la voix de ces petits prophètes. La technologie évolue, la durée de la vie allonge, mais le cœur de l'homme reste inchangé, si ce n'est toi qui viens le transformer. La vieille nature est héritée de Adam, est toujours présente et toujours opposée à marcher selon l'Esprit, Seigneur. Et tu veux nous avertir aujourd'hui encore, tu veux nous interpeller, Seigneur. Te demandons de le faire et toute liberté dans nos cœurs pour nous reprendre, pour nous montrer les conséquences de notre péché si nous ne le repentons pas, si nous ne changeons pas de voie, Seigneur. Ce n'est pas faute de nous prévenir, Seigneur, que nous nous trouvons dans des circonstances des fois très difficiles, des fois très douloureuses, pleines de chagrin de par notre faute. Nous savons que nous vivons dans un monde corrompu, entaché par le péché. Nous ne pouvons pas échapper à la souffrance, Seigneur, mais la pire des souffrances est celle qui vient de notre désobéissance. Tu veux nous le rappeler aujourd'hui, Seigneur. Tu veux nous demander d'être tout attentif pour pouvoir recevoir ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, on parle des petits prophètes, c'est simplement parce que le volume de leurs écrits est moindre que celui d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Mais ce qu'ils ont à nous dire est tout aussi important. Et j'aime bien penser que le passage le plus important de la Bible, c'est celui que vous lisez au moment même. Et donc, ce n'est pas quelque chose que je dis à la légère. Je pense que pour des raisons connues par Dieu, il veut qu'aujourd'hui nous soyons confronté à sa parole sur ces sujets que nous allons lire ensemble, que nous allons découvrir ensemble et commenter. Encore une fois, Osée parle essentiellement à l'époque, il s'adressait au royaume du Nord. Le royaume de David et Salomon avait été divisé en deux. Au Nord, il y avait Jéroboam, le premier du nom, qui avait composé un royaume fait de 10 nations, la plus importante s'appelant Éphraïm, avec pour capitale la ville de Samarie. C'est le royaume qu'on a appelé à partir de ce moment-là le royaume d'Israël. Au sud, il y avait le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, et essentiellement la tribu de Juda et celle de Benjamin. On sait que les deux royaumes vont terminer en exil. Le premier à être envoyé en exil, ça va être le royaume du Nord, Israël, avec la capitale Samarie. Ils vont partir, ils vont être pris en captivité par les Assyriens. Plus tard, le royaume de Juda va les suivre, mais là, ils vont aller à Babylone. Et ça va être l'exil du peuple de Dieu. Et c'est intéressant de voir comment Dieu essaye d'avertir son peuple, de le mettre en garde de ne pas continuer dans le péché. Il le faisait à l'époque avec ses deux royaumes. Il le fait aujourd'hui avec chacun de nous. Il nous met en garde contre les conséquences du péché, contre l'endurcissement de nos cœurs. Nous pouvons, sans nous réaliser, nous éloigner de lui. C'est ça qui est le plus terrible. C'est lorsque, petit à petit, on s'éloigne de Dieu, de ses préceptes, d'obéir à ses commandements, alors qu'il est là, qu'il essaye de nous interpeller, de nous parler. Alors certains disent, mais j'entends jamais Dieu me parler. Est-ce que vous lisez la parole ? Je réalise qu'on parle de ça comme d'un fait acquis pour les chrétiens, que chacun lit la Bible chaque jour, ou au moins un jour sur deux, mais qu'il y a une relation réelle avec la parole de Dieu. Mais la chose terrible, c'est de réaliser qu'en fait, parmi les personnes qui viennent dans les églises, même les églises évangéliques nées de nouveau, il y en a beaucoup qui se disent « la parole, je connais, j'ai déjà lu ». Mais c'est justement lorsqu'on est dans la lecture de la parole que le Seigneur peut le plus facilement nous parler. Il nous parle par les circonstances, il nous parle par les frères et sœurs, il nous parle par la maladie, par le succès, par la joie, par la tristesse. Mais il veut, par son Esprit Saint, nous parler à travers cette parole qu'il nous a confiée. Et si vous avez du mal à lire la parole tous les jours, demandez l'aide de Dieu, engagez-vous, prenez un programme. Mais je dis, moi, Dieu me parle lorsque j'ai un marqueur jaune et que quand je lis la Bible, j'ai envie de souligner. Si j'ai envie de souligner, c'est parce que ça a résonné dans mon cœur. Mais si je suis jamais dans la parole, ça va jamais résonner. Et petit à petit, on va dire, oui, on connaît, Jésus est mort pour mes péchés, alléluia, et puis on passe à autre chose. Alors c'est bien, c'est essentiel. Je suis heureux que si vous avez déjà fait cette prière et si vous êtes sauvé, mais vous passez à côté d'une vie pleine de richesses, d'une vie qui a du sens, d'une vie qui compte, d'une vie qui transforme les personnes autour de vous. Soyons donc attentifs à lire la parole. Et c'est vrai qu'on peut, si on prend une liste, plutôt une liste de lecture journalière, et que l'on souligne, on coche chaque jour la lecture, il y a un danger, c'est que ça devienne un peu stérile. Et c'est remarquable comment on peut lire quelque chose et puis se demander, qu'est-ce que je viens de lire ? De quoi ça parlait ? Ça, c'est un bon test de savoir si votre lecture est machinale ou si elle est sincère. Si votre programme vous demande de lire trop de choses parce que vous n'avez pas le temps ou n'avez pas le loisir de... Je pense aux mamans qui sont toujours prises avec leurs enfants, etc. Limitez votre lecture. Mais chaque jour, lisez un peu, ne serait-ce qu'un verset. C'est pour ça que les calendriers bibliques avec des versets sont une bonne façon. C'est mieux que rien, c'est pas... Mais essayez de... Quand vous lisez votre lecture quotidienne que vous cochez, trouvez un passage, trouvez un verset que vous avez envie de souligner. Et vous pouvez marquer... Pour la lecture du jour, vous avez lu ça, mais c'est tel verset vous a marqué. Si vous n'avez aucun verset qui vous a marqué, alors là, je vais me poser des questions. Est-ce que vous avez été lobotisé, c'est ça, lobotomisé, Est-ce que vous avez enlevé le cerveau? Est-ce que vous avez encore un cerveau et un cœur? Parce que tout est destiné à toucher notre esprit, à toucher notre cœur. Alors, encore une fois, c'est pas seulement la parole emmagasinée, et c'est la parole reçue avec le Saint-Esprit et la parole que vous mettez en pratique dans la journée. Est-ce que vous cherchez à vivre les commandements que vous avez lus? Et je peux vous assurer que si vous le faites, vous allez être émerveillé par ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Il va vous utiliser, il va vous bénir, et vous allez grandir. Donc, on va lire le verset 1 du chapitre 8, le chapitre 8, Osée. Donc, Osée, c'est tout le monde a trouvé le passage ? Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué et il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. En effet, ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils font des cadeaux parmi les nations, je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour péché et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Ils sacrifient des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la viande. L'Éternel n'y prend pas plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leurs fautes et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qu'il a fait. Il a construit des palais. Juda a multiplié les villes fortifiées. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il dévorera leurs palais. Posons ici. Embouche la trompette. On a vu dans les chapitres précédents que Dieu se plaint de l'infidélité d'Israël. Dieu veut nous montrer qu'il souffre lorsque nous sommes éloignés de lui, lorsque nous vivons sans égard pour lui. On fait souffrir Dieu, on l'attriste, on le fait souffrir comme quelqu'un qui est trompé par sa femme. Je dis ça parce qu'en fait, il a demandé au prophète Osée d'aller épouser une femme prostituée, une femme qui est infidèle et qui va le quitter encore et toujours. Et on a parlé de la douleur d'être trompé par un mari ou une femme. Dieu veut nous dire que ça lui fait aussi mal lorsque nous suivons d'autres dieux. Il utilise l'image du mariage pour montrer l'intimité qu'il veut avoir avec chacun de nous. Et lorsque nous le laissons de côté, c'est comme si nous commettons l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas seulement avoir une petite statuette devant laquelle on s'incline, c'est tout ce qui prend la première place dans votre vie qui devrait revenir à Dieu. Et on devrait, dans toutes circonstances, penser à Dieu d'abord. Et si on est honnête avec nous-mêmes, si on a des joies, on ne pense pas nécessairement à Dieu. Si on a des douleurs, des difficultés dans nos vies, des maladies, on ne pense pas tout de suite à Dieu. Si la maladie est sérieuse, on a tendance à se tourner davantage vers Dieu. Mais Dieu souffre lorsque nous le négligeons, lorsque nous sommes loin de lui. C'est important de réaliser ça, je pense, parce que ça change la nature de notre relation. C'est pas un père fouettard qui est là à nous dire « fais ça, sinon tu vas avoir des douleurs, des conséquences douloureuses ». C'est quelqu'un qui nous aime. Et pour nous qui avons le privilège d'être parents ou grands-parents, on sait que on aime nos enfants, nos petits-enfants, et on les aime même s'ils ne nous montrent pas d'amour en retour. Mais lorsqu'il sourit en retour, lorsqu'il nous aime en retour, on est tellement béni. Et le mariage, c'est une belle illustration. Encore une fois, je crois que Dieu a choisi la sexualité pour la perpétuation de l'espèce. Pas pour que le diable s'en empare et invente la pornographie et toutes les perversions sexuelles. Il l'a fait parce que c'est une image de la relation d'intimité profonde qu'il veut avoir avec chacun de nous. Il aurait très bien pu faire, je le dis souvent, vous m'avez peut-être entendu dire cela déjà, que l'on puisse se reproduire par bouturage. Prenez un sécateur, vous coupez votre petit doigt, vous le plantez dans un terreau bien, bien humide, et pof, au bout de 9 mois, il y a un petit bébé qui commence. C'est ce qu'on dit, les petits bébés, les petits garçons naissent dans les choux, les petites filles naissent dans les roses. Pour Lina, fais attention quand tu coupes les roses. Mais il veut avoir une relation intime, il veut avoir une vraie relation avec nous. Il veut, et donc, il nous laisse libre de le rejeter, mais dans son amour, il envoie des conséquences douloureuses qui vont peut-être nous faire revenir à lui. Il dit plutôt, embouche la trompette. Donc il s'adresse à Israël ou peut-être à l'ennemi. La trompette était utilisée comme une façon de rallier les troupes pour attaquer ou pour se défendre. Certains qui voient la sévérité de Dieu disent que c'est la trompette pour dire à la Syrie, à l'ennemi, de venir attaquer Israël. Et ça, c'est terrible. Si Dieu nous encourage à faire venir l'ennemi pour nous punir, il y a un problème. Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. On voit, première situation, c'est qu'ils se sont détournés de la parole de Dieu. Ils se sont révoltés contre la loi de Dieu. L'ennemi fond comme un aigle. On a le privilège aujourd'hui des caméras GoPro, des films à haute définition où on peut voir justement une attaque par un aigle. Il y en a qui ont collé des GoPro sur le dos des aigles et on voit la vitesse vertigineuse à laquelle ils attaquent leur proie. Ils ont un regard perçant, ils peuvent repérer une proie, un petit rongeur à des centaines et des centaines de mètres de l'animal. Et lorsqu'ils ont cadré, qu'ils arrivent, qu'ils ont décidé, c'est un peu comme les caméras embarquées sur les fusées du Pentagone. On voit la bête arriver à toute vitesse. Autrement dit, l'ennemi va arriver, ça va être inéchappable. Ils ne vont pas pouvoir échapper. Lorsque Dieu décide quelque chose, on peut se cacher, on le verra plus loin. Ils vont essayer de se cacher dans les montagnes. Quand Dieu a atteint ce point de colère contre nous, il n'y a plus d'espoir. Ils ont violé mon alliance. L'ancienne alliance, on en reparlera de la nouvelle alliance qui est différente, mais cette ancienne alliance, elle disait que si les hommes croient en Dieu et obéissent à ses commandements, alors ils seront bénis, ils seront sauvés, ils seront bien. Et si par contre ils n'obéissent pas à ses commandements, ils seront punis, ils seront réprimandés, ils vont souffrir des conséquences difficiles. Ils se sont révoltés, ils ont violé mon alliance, ils se sont révoltés contre ma loi. Mon alliance et ma loi. C'est Dieu qui a écrit la parole, c'est Dieu qui a donné les 10 commandements. Et on a souvent tendance à penser que la loi, c'est pénible. La loi, c'est des punitions, c'est des contraintes. Mais c'est mal connaître Dieu. La parole est pleine de passages qui disent que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort, elle permet aux personnes de se convertir, elle convertit l'âme. Ça, c'est psaume 19, 7. On peut s'y tourner parce que je crois que c'est important de ne pas avoir une vue négative de la loi. On sait que le Nouveau Testament nous a parlé de la grâce de Dieu, mais verset 8 du chapitre 19 des psaumes, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort, le témoignage, tout ça c'est des synonymes, le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi n'est pas mauvaise en elle-même. Romains 7, 12, vous avez, pour ceux qui font l'étude de la Bible en 24 heures, vous avez passé toute une heure sur Romains. Et c'est vrai que c'est un peu court, mais c'est bien d'avoir une vue d'ensemble de Romains. Mais il est dit, par exemple, dans Romains 7, 12, et là, il révèle, Paul explique en fait que la loi de Dieu révèle notre péché. Elle est bonne parce qu'elle nous montre que nous ne sommes pas parfaits. Et là, il dit, en effet, le péché saisissant, verset 11, saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi en elle-même, elle est parfaite, il n'y a rien de mauvais. Nous avons tendance à nous révolter contre la loi de Dieu parce que nous réalisons que nous n'avons pas en nous-mêmes ce qu'il faut pour la respecter. Et c'est très frustrant. Et plutôt que d'admettre cela, on balance la loi, on se révolte contre ma loi. Et puis, une chose que nous pouvons faire aussi, c'est de penser que, certes, nous n'obéissons pas aux commandements parfaitement, mais nous connaissons Dieu, nous venons à l'église, nous lisons la parole, plus ou moins, des fois bien, des fois moins bien. Nous faisons des études bibliques peut-être, nous venons entendre des sermons sur la parole de Dieu. Et on peut dire, comme le prophète le dit, ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. On peut avoir tendance qu'on est à l'abri de la colère de Dieu parce qu'on l'a... On l'a un peu fréquenté. Mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, 21, lui aussi nous a mis en garde contre ce sentiment de dire « Mais Dieu, on n'a pas de souci à se faire, on te connaît, parce que j'ai été baptisé quand j'étais enfant, ou parce que je suis allé au catéchisme. » Ou... Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Waouh ! Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Faisons attention à ne pas présumer de notre relation avec Dieu parce que nous fréquentons une église, parce que nous obéissons à certains rituels. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. S'il n'y a pas une vraie relation avec Dieu, relation de proximité qui fait qu'on écoute ce qu'il nous dit et qu'on obéit à ses commandements, à ce moment-là, on est loin de lui et il va nous dire je ne vous connais pas. Israël a rejeté les biens, l'ennemi le poursuivra. Ils se sont détournés, ils dépendent de choses terrestres aussi. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau à Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et il n'est pas Dieu, c'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Ils dépendent de choses terrestres dans le domaine de la politique. C'est eux qui ont établi des rois sans que Dieu leur ait donné l'ordre de le faire. Alors ça remonte à 1 Samuel. Dieu avait établi une relation particulière avec le peuple d'Israël, nord et sud confondus à l'époque, ils avaient ce qu'on appelait des juges qui géraient les situations politiques qui se présentaient. Mais lorsque Samuel est devenu vieux, ils ont voulu faire comme tout le monde. Ça aussi, c'est un problème que nous avons en tant que chrétiens. Souvent, on veut faire comme le monde qui nous entoure. On ne cherche pas à être mis à part, on aime bien se fondre dans la masse. Et le peuple à l'époque disait, tout autour de nous, on voit des peuples qui sont gouvernés par un roi. Nous aussi, on veut un roi. Et on sait qu'il leur a donné d'abord le roi Saül, qui s'est révélé être un très mauvais roi. Et puis, après, il y a eu David. Mais Dieu n'avait, c'était jamais l'idée de Dieu d'avoir un roi qui règne sur son peuple. Il voulait être ce roi. Il voulait ce qu'on appellerait aujourd'hui une théocratie. Aujourd'hui, on vante les mérites de la démocratie, le règne du peuple. En fait, il n'y a que quand les gens vont dans la rue et qu'ils font la révolution qu'il y a vraiment une démocratie. parce qu'on a remplacé les rois de l'Ancien Régime par des présidents qui se prennent pour des rois. Ils ont établi des rois sans mon ordre, des chefs sans se référer à moi. Je ne sais pas si vous êtes inscrit sur les listes électorales, je vous invite à le faire si vous avez rempli les conditions de nationalité, d'âge, etc. Et exercez votre droit de voter. Mais là, il se plaint qu'ils n'ont aucune pensée pour Dieu. Je vous invite, lorsque vous votez, à prier avant de voter. On vit à l'heure de l'image, de la com, de la communication, et on vote pour un président comme on voterait pour The Voice. C'est triste, mais c'est la réalité. Il y en a un qui a l'air sympa, un qui est jeune, un qui est dynamique. Peu importe son programme, d'où il vient, ses croyances vis-à-vis de Dieu, on devrait se préoccuper de ces choses-là et prier pour avant de d'élire telle ou telle personne. Ils ont fait des idoles, au lieu de dépendre de Dieu, ils ont fabriqué des idoles. Et c'est toujours une surprise pour Dieu de voir comment les hommes sont prêts à se rebeller contre lui et à suivre des idoles. Donc ça peut, à l'époque, c'était des statuettes qui avaient des pouvoirs, soi-disant des pouvoirs divins. Aujourd'hui, on remplace la piété envers Dieu, la dépendance envers Dieu, par la dépendance envers l'éducation. On remplace la place, Dieu, dans la place qui doit lui revenir, la première place, par d'autres préoccupations. Ça peut être les plaisirs, ça peut être l'argent, ça peut être... Toutes ces choses-là sont des idoles. Mais le psalmiste disait dans le psaume 115, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu est tout puissant. » Et il dit, « Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Dieu veut que nous nous confions en lui, pas dans d'autres choses. » Alors vous dites, mais je n'ai jamais prié devant une petite statuette couverte d'or ou d'argent. Mais là, est-ce que vous avez des ennuis? Est-ce que vous pensez, si j'avais plus d'argent, je pourrais régler le problème? Donc vous allez essayer de récolter ou d'emprunter ou de demander de l'argent. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez essayer d'aller voir le dernier traitement possible avec la technologie moderne. Mais vous allez complètement négliger de demander l'aide de Dieu. Une chose aussi qui est frappante, c'est une parenthèse, mais il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Si vous vous confiez dans l'argent, l'argent que vous pouvez récolter à la bourse avec en achetant, en vendant des actions, en faisant des emprunts. Si vous jouez là-dessus, vous allez devenir volatile comme le marché. Quand le marché va aller bien, vous serez heureux. Quand le marché va tomber, vous serez déprimé. Ça peut être vos idoles sportives. Si votre idole, c'était Ibrahimovic du PSG, si vous ne viviez que pour les résultats de votre équipe, il y a eu des études de fait qui montrent que l'absentéisme augmente, ça a été fait aux États-Unis, que l'absentéisme augmente dans les villes où l'équipe de la ville vient de perdre le match. Autrement dit, normalement, il y a dû avoir plus d'absentéisme à Paris la semaine dernière qu'en temps normal. Les gens sont déprimés parce qu'ils ont mis tous leurs espoirs. Ah, si seulement le Paris Saint-Germain gagnait la Coupe d'Europe, big deal. Qu'est-ce que ça vous fait, franchement? Ça vous fait une belle jambe qu'une équipe de 11 joueurs auxquels vous ne participez pas. Tout ce que vous faites, peut-être, c'est d'aller payer un billet à 100 euros pour les voir une fois de temps en temps. Mais on est tous, et les premiers, nous, il va y avoir l'euro en juin. Si l'équipe de France marche bien, le PIB va augmenter. Si on est éliminé très rapidement, on va tous prendre un coup sur la tête. Pourquoi ? Parce que on a des idoles. On ne voit pas que c'est Dieu qui compte. Puisqu'ils ont ce veau, c'est intéressant, ils avaient donc Jéroboam, le roi qui avait fait le royaume du Nord, qui avait établi ce royaume du Nord, avait établi un culte pour pas que les gens aient tendance à revenir à Jérusalem, au temple. Et donc, il avait, à Samarie, il avait construit un autel. Et je n'ai pas eu le temps de préparer ça, mais j'ai une photo. J'ai vu en Israël un endroit qui s'appelle Dan Tel, le Tel de Dan, la ville du Nord où avait été, il y avait un autel de sacrifice qui a été reconstitué. Et là, ils sacrifiaient des animaux à un veau en or, comme le veau d'or d'Aaron, après que Dieu ait donné les 10 commandements. Il a rejeté ton veau à Samarie. Et en fait, le mot utilisé, c'est pour dire que le veau, il sent mauvais. C'est une infection. Et ça nous montre ce petit verset. En fait, c'est ton veau pue. Tu célèbres une idole, et pour Dieu, c'est offensant, c'est quelque chose de dégoûtant. C'est comme si vous aviez quelque chose qui sent très, très, très mauvais. Et notre péché, il est comme ça aussi, aux yeux de Dieu. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? L'expression « ma colère », c'est aussi le même mot que le mot de « narine », de « nez ». Lorsqu'il est dit que Dieu est patient, en anglais « long suffering », qu'il souffre longtemps, qu'il est prêt à encaisser pas mal de choses, le mot veut dire « il a les narines longues ». Ça veut dire qu'avant que ça lui monte au cerveau, que la moutarde lui remonte jusqu'au cerveau, ça va prendre du temps parce qu'il a des narines longues. Mais lorsque sa colère est enflammée, alors attention. Le veau de Samarie sera mis en pièces. Il avait été fabriqué par un ouvrier. Il refuse de se purifier. Le psaume 119,9 nous dit qu'un jeune homme va purifier son sentier en se confiant à sa parole. Encore une fois, le recours à Dieu, le recours à sa parole, c'est notre seul espoir. Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué. C'est des choses faites par des hommes, ce n'est pas Dieu qu'on adore ainsi. Et puis il y a cette fameuse expression... Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Il y a beaucoup d'expressions dans la langue française et dans d'autres langues qu'on utilise sans savoir en fait qu'elles sont des références bibliques. Ce sont des citations bibliques. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Le vent... Il y a des gens, peut-être au boulot, vous avez peut-être des collègues qui font beaucoup de vent, mais qui ne font pas grand-chose en réalité. Ils parlent à tout le monde de tout ce qu'ils ont fait, mais en fait on dit « c'est du vent ». Et là, ils ont semé du vent. En fait, c'est de l'idolâtrie qu'ils ont semé. Quelque chose qui n'a aucune consistance, quelque chose qui ne vaut rien du tout. Et ils vont moissonner la tempête. C'est un principe qui est souvent utilisé dans la parole de Dieu, ce concept de la récolte. On peut aller voir dans le Nouveau Testament, il y a le passage le plus connu, c'est dans Galates, mais on trouve ce concept dans Jérémie, dans Ésaïe, dans Osée, là où on vient de le lire. Dans Galates, Galates 6, dans ma Bible, il y a un petit sous-titre, « Nous récoltons ce que nous semons ». Ne vous y trompez pas, c'est le verset 7 de Galates 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ça, c'est un principe inévitable, c'est une loi de la vie. C'est vrai en agriculture, c'est vrai moralement, c'est vrai dans tous les domaines. Et il y a cette loi de la récolte, il y a de la moisson, hein, on récolte ce qu'on sème. J'aime bien parler des quatre aspects de la loi de la moisson. On récolte quelque chose de même nature que ce qu'on a semé. Or, c'est bien si on sème de bonnes choses. Si on sème des pommes, on va récolter des pommes, alléluia. Si on sème des pissenlits, on va récolter des pissenlits. Donc, attachons-nous à planter de bonnes choses que nous voulons dans nos vies, pour passer à l'illustration morale. Une autre chose, c'est que la récolte, elle prend du temps. C'est difficile pour nous d'être patient et de voir le temps amener certains résultats. Mais on peut l'enseigner aux enfants. Les mamans, je vous invite à, ou les papas, je vous invite à montrer à vos enfants que si vous mettez une graine dans du coton et que vous la mouillez ce coton, au bout de quelques jours, ça prendra quelques jours seulement, il y aura déjà quelque chose qui va sortir de la semence. On peut faire ça avec des avocats, on peut faire ça avec plein de choses, des graines de lentilles. Mais apprendre aux enfants qu'il faut laisser le temps au temps. Et c'est vrai pour ce qu'on sème de bien, et c'est dangereux parce que c'est vrai pour ce qu'on sème de mal. Parce qu'on peut se dire, je pêche, je sème pour la chair, pour la vieille nature, et apparemment il n'y a rien de grave qui se produit. Donc je n'ai pas de souci à me faire, je peux continuer. On oublie le fait que ça prendra le temps que ça prendra, mais que c'est inexorable. Si on a semé de mauvaises choses, on va récolter de mauvaises choses. Une autre loi de la récolte ou de la moisson, c'est qu'on récolte toujours plus que ce qu'on sème. Alors c'est une très bonne chose parce que ça permet de nourrir la population française. On sème quelques graines et on récolte davantage et on peut replanter toutes ces graines et exponentiellement être capable de nourrir beaucoup de monde. Mais c'est pareil aussi avec de mauvaises choses. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Même principe. Si on se permet de faire quelque chose de mal avec de petites choses, un jour on va se retrouver à faire quelque chose de mal avec de grandes choses. On récolte plus que ce qu'on a semé. Et un quatrième point, en fait, que j'ai de la récolte, qui est évident, que j'ai jamais mentionné, c'est que lorsque ça arrive, ça va très vite, la récolte. Et c'est tout bête comme principe, mais c'est vrai que le fermier, il va préparer la terre, il va briser avec la charrue, il va briser les mottes de terre pour pouvoir semer, il va prendre soin de ses semailles, il va être sûr qu'elles sont arrosées, s'il fait trop froid, il va les recouvrir. Ça va prendre du temps. Mais quand il est l'heure de récolter, au mois de juin ou au mois de juillet, il n'a qu'une semaine ou deux pour récolter toute cette quantité de plus grande, de même nature que ce qu'il a planté, mais ça vient très vite. Et cette image, ils ont semé du vent, ils récoltent la tempête. Ils moissonnent la tempête. Ils se sont amusés avec des idoles. Ils vont d'un seul coup se retrouver sur le chemin de l'exil, aux mains des Assyriens. On en a parlé la semaine dernière, c'était un des peuples les plus cruels de l'histoire qui avait inventé des nouveaux supplices comme celui de la croix ou qui, pour faire avancer les prisonniers, pour les humilier d'abord, les mettait nus et ensuite leur mettait des hameçons dans les lèvres. Des hameçons reliés à un fil. Comme ça, quand on repartait, tout le monde bougeait vite. C'est comme l'histoire du poisson de Gad Elmaleh qui s'était fait défoncer la gueule. On se fait défoncer la tête si on n'avance pas. Ça, c'est la tempête, quelque chose d'inimaginable. Ça prend du temps. On va récolter la même chose. Il y en aura plus que ce qu'on a semé. Et quand ça arrive, ça va être comparable à la vitesse de l'aigle qui fond sur nous. C'est terrible. Ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Il y a plein d'illustrations. Tous les banquiers qui faisaient des prêts qu'ils n'auraient jamais dû faire, d'un seul coup, quand ça a été la crise financière, c'était la tempête. Ça faisait des années qu'ils semaient du vent. Et ça, c'est encore une fois, c'est un principe qui fait peur si on sème du mal et qui nous rassure si on fait du bien. Vous pouvez faire confiance à Dieu que si vous suivez ses commandements, si vous aimez les autres, si vous faites du bien, vous allez être béni. Et puis même s'ils n'auront pas un seul épi de blé, ce qui poussera ne donnera pas de farine, et même s'ils avaient encore quelques récoltes, les étrangers les prendraient, la dévoreraient. Israël est englouti. Ils sont parmi les nations comme un vase indésirable. Ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ébrahim a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils font des cadeaux parmi les nations, je vais maintenant les rassembler bientôt, ils souffriront sous le fardeau du prince. Le péché rend stupide. Vous pouvez noter ça dans votre Bible. Le péché rend, R-E-N-D, stupide. D'abord, il faut faire abstraction de sa raison pour ne pas voir les conséquences à prévoir du péché. Le péché vous enlève tout discernement. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils dépendaient de choses terrestres, de rois, de politique, de l'économie, ils espéraient qu'en semant des graines, ils en auraient. Non, ils ont semé du vent, ils vont moissonner la tempête. Et ils vont être assez stupides pour aller demander de l'aide à leur plus grand ennemi. Ils n'ont plus aucun discernement. Ils vont aller demander de l'aide à cet ennemi le plus terrible, pire que Daesh, aujourd'hui. Ils vont demander s'ils ne peuvent pas avoir leur soutien. On fait la même chose lorsqu'on persévère dans un péché que l'on sait être mauvais. On s'arc-boute, on prétend que rien ne va se passer, et pourtant ça va arriver. Ils essayent d'amadouer les puissants avec des cadeaux, jamais une bonne idée. Bientôt, ils vont souffrir sous le fardeau du roi des princes. Ils vont être sous la botte de leurs ennemis. Ils se sont détournés de la parole, ils dépendent de choses terrestres et ils déplaisent à Dieu avec une fausse religion. Éphraïm a multiplié les autels pour faire des sacrifices pour le péché, c'est ce que veut dire pour péché, mais ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Ils ont donné plus d'importance au rituel qu'à la relation avec Dieu. Ils savaient qu'ils se rappelaient qu'il fallait faire des sacrifices pour Dieu sur les autels, qu'on sacrifiait des animaux, qu'on versait le sang. Et ils ont fait ça, mais en même temps, ils en profitaient pour commettre des péchés. Ils avaient ajouté une dimension sexuelle, d'orgie, à leur sacrifice, qui était vraiment une abomination devant Dieu. Et nous aussi, on peut privilégier l'extérieur, le rituel, venir au culte une fois par semaine, avoir une Bible chez soi qu'on laisse prendre la poussière, mais quand même, il y a une Bible. On peut faire la prière avant le repas comme un mantra ou une superstition. Mais si notre cœur n'est pas impliqué, ça vaut rien du tout. Verset 12, « Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. » Dieu, entre parenthèses, il dit que c'est lui l'auteur de la loi. C'est Dieu qui a écrit la parole de Dieu. C'est pas des hommes, comme nous dira 1 Pierre, c'est pas des hommes, ce sont des hommes conduits par l'Esprit-Saint qui ont écrit la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. La parole est exprimée par Dieu. C'est lui qui l'a soufflé, qui l'a insufflé aux hommes par l'Esprit-Saint. J'écris pour lui tous les articles de ma loi. Ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Je pense que ça veut dire qu'ils sont si peu familiers avec la parole de Dieu qu'on leur dit des choses qui sont dans la parole de Dieu et qui disent « Ah non, c'est jamais là-dedans ça. On dit bien « Et toi, le ciel t'aidera, donc je pense d'abord à moi, c'est dans la Bible ça. » Non, ça c'est une fable de La Fontaine. Peut-être que vous entendez quelque chose et vous dites, c'est dommage qu'un tel ou une telle ne soit pas là pour entendre ça. Ça, c'était directement pour cette personne. Si jamais vous avez ce sentiment, demandez-vous si ce n'est pas d'abord à Dieu, à vous, que Dieu veut parler. On a tendance à voir le péché, nos péchés chez les autres très rapidement. Par contre, on est aveuglé, encore une fois, on perd le discernement, on est aveuglé par le péché. L'Éternel, il sacrifie des victimes. Ils font des offrandes, mais ce sont des rituels vides et l'Éternel n'y prend pas plaisir. Ça vous rappelle peut-être un psaume, le psaume 51, versets 18 et 19. Si tu avais voulu, c'est le psalmiste David qui parle à Dieu. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, c'est-à-dire les sacrifices complètement consumés. Et il ajoute, inspiré par l'Esprit de Saint, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. C'est pas nécessairement les rituels, s'ils ne sont pas accompagnés d'une vraie adhésion de tout notre esprit, de tout notre cœur, qui compte. Encore une fois, aller à l'église, prier avant le repas, célébrer Noël et Pâques, si c'est machinal, si c'est pour être correct, mais qu'il n'y a pas d'émotion sincère devant Dieu, alors l'Éternel n'y prend pas plaisir. Autant ne pas le faire. Maintenant, l'Éternel se souvient de leurs fautes et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Il va y avoir des conséquences. Israël a oublié celui qu'il a fait. Il a construit des palais. Je suis toujours émerveillé quand j'étais à Bourges, j'ai pu visiter la cathédrale. C'est toujours impressionnant de voir comment des hommes, mus par la foi et aussi peut-être une pression sociale, pouvaient construire des édifices si beaux. Mais ce qui comptait, c'était le cœur des gens. Et si alors je ne juge pas les bâtisseurs de ces cathédrales, parce que je crois qu'ils avaient une foi forte et solide, mais aujourd'hui, tous ces monuments sont vides de sens parce qu'il n'y a pas de cœur qui sont à Dieu. Ou très peu, du moins. Verset 14, il termine ce chapitre, et on va terminer avec ça, c'est que Judas a multiplié les villes fortifiées. Judas aussi va avoir le feu dans leur ville, et le feu va dévorer leur palais. Judas, le royaume du Nord, donc, lui se confiait dans la force militaire. Ça, c'est une leçon pour nous tous. Nous devons faire confiance à Dieu pour tout ce qui nous préoccupe. S'il y a quelque chose d'autre que l'on met, Dieu, la prière vers Dieu, ça ne doit pas être notre dernier recours, ça doit être notre premier secours. On doit avoir ce réflexe de se tourner vers Dieu, de lui demander son aide. Si on veut lui plaire. Et si on cultive ça, on va faire de bonnes récoltes. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces paroles difficiles à recevoir. Merci pour ce principe de la récolte et de la moisson. Seigneur, c'est vrai que c'est rassérénant. Seigneur, ça peut nous remettre sur le droit chemin. Prie que tu nous l'as donné pour qu'on ait le sentiment d'être sérieux avec toi, Seigneur. On ne peut pas se permettre de faire des rituels vides de sens. Tu veux bénir, mais tu veux que nous soyons à ton écoute, Seigneur. Merci pour la nouvelle alliance qui fait que c'est Jésus-Christ qui a parfaitement obéi à ta loi, Seigneur, qui est mort pour nos péchés, et que maintenant c'est simplement par la foi que nous pouvons recevoir ta grâce. La loi est venue par Moïse, et c'était une bonne chose, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Seigneur, tu veux toujours nous encourager, tu veux nous reprendre aussi. Merci pour ces avertissements solennels, Seigneur. Je te demande de m'aider à les méditer, à vraiment les mettre en pratique dans ma vie et dans la vie. Je prie la même chose pour mes frères et sœurs aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.